Qu'appelle-t-on commun, en fin de compte? Les mots sont des signes verbaux pour désigner des idées. Les idées, elles, sont des signes imaginatifs plus ou moins précis, correspondant à des sensations qui reviennent souvent et en même temps, des groupes de sensations. Il ne suffit pas pour se comprendre mutuellement d'employer les mêmes mots. Il faut encore user des mêmes mots pour le même genre d'événement intérieur. Il faut enfin que les expériences de l'individu lui soient communes avec celles d'autres individus. C'est pourquoi les hommes d'un même peuple se comprennent mieux entre eux que ceux qui appartiennent à différents peuples. Mais lorsque les peuples différents emploient le même idiome, ou plutôt lorsque des hommes placés dans les mêmes conditions de climat, de sol, de danger, de besoin, de travail, ont longtemps vécu ensemble, il se forme quelque chose qui se comprend, c'est-à-dire un peuple. Dans toutes les âmes, un nombre égal de faits qui reviennent souvent l'a emporté sur les faits qui reviennent plus rarement. Sur les premiers, on s'entend vite, toujours plus vite. L'histoire de la langue est l'histoire d'un procédé d'abréviation. À cause de cette entente rapide, on s'unit de plus en plus étroitement. Plus le danger est grand, et plus grand est le besoin de s'entendre vite et facilement sur ce dont on a besoin. Ne pas s'exposer à un malentendu dans les dangers, telle est la condition indispensable pour les hommes dans leur commerce réciproque. On s'en aperçoit aussi dans toute espèce d'amitié et d'amour. Aucun sentiment de cet ordre ne dure si, tout en usant des mêmes paroles, l'un des deux sent, pense, pressent, éprouve, désire, craint autrement que l'autre. La crainte de l'éternel malentendu, tel est le bienveillant génie qui retient si souvent les personnes de sexe différent de contracter les unions précipitées que conseillent les sens et le cœur. Ce n'est nullement une sorte de génie de l'espèce comme l'a imaginé Schopenhauer. Savoir quels sont dans une âme les groupes de sensations qui s'éveillent le plus rapidement, qui prennent la parole, donnent des ordres, c'est là ce qui décide du classement complet de la valeur de ces sensations. C'est là ce qui, en dernière instance, fixe leur table de valeur. Les appréciations d'un homme présentent des révélations au sujet de la structure de son âme, montrent où celle-ci voit ses conditions d'existence, son véritable besoin. Si l'on admet donc que, de tout temps, le besoin n'a rapproché que des hommes qui pouvaient désigner, au moyen de signes semblables, des nécessités semblables, des impressions semblables, il résulte dans l'ensemble que la facilité de communiquer le besoin, c'est-à-dire en somme le fait de n'éprouver que des sensations moyennes et communes, a dû être la force la plus puissante de toutes celles qui ont dominé l'homme jusqu'ici. Les hommes les plus semblables, les plus ordinaires eurent toujours et ont encore l'avantage. L'élite, les hommes raffinés et rares, plus difficiles à comprendre, courent le risque de rester seuls et, à cause de leur isolement, ils succombent au danger et se reproduisent rarement. Il faut faire appel à de prodigieuses forces adverses pour entraver ce naturel, trop naturel progressus in simile, le développement de l'homme vers le semblable, l'ordinaire, le médiocre, le troupeau, le commun.